Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 48e épisode. Le thème de cet épisode est le bondage, ses problèmes, risques et dangers. Ce 48e épisode fait partie d'une série de 3 épisodes. Elle a été commencée avec l'épisode numéro 47, dans lequel je présentais le bondage et où j'expliquais les raisons pour lesquelles on peut vouloir en faire, ainsi que les différentes variantes, les différents types de bondage possibles. L'épisode suivant, qui sera le numéro 49, parlera d'un tout autre sujet, mais qui est très important évidemment, c'est comment se lancer dans le bondage et éventuellement comment convaincre votre partenaire de s'y mettre. Première partie, le BDSM est-il dangereux et le problème des avertissements sur les dangers. Avant d'entrer dans les détails, je vais commencer par répondre à la première question. Le BDSM en général et le bondage en particulier, non, ça n'est pas dangereux. Ça n'est pas dangereux en soi, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, ce n'est pas réservé à des gens qui savent, c'est pas réservé à une élite. Mais évidemment, comme pour tout, il faut nuancer. C'est évident que tout dépend de la façon dont vous le faites. C'est clair que si vous vous contentez d'utiliser une petite paire de menottes, ça n'a rien à voir avec faire des suspensions de shibari compliquées et qui sont un vrai danger. Je rappelle que le shibari, c'est le bondage à la japonaise. Je sais que je me répète, vous allez m'en excuser, mais il y a un problème de fond quand on commence à parler de choses qui sont sexuelles, et notamment quand on parle de choses qui sont rattachées au BDSM, c'est qu'il y a toujours cette tendance à considérer, à vouloir penser, à vouloir dire, parce qu'il y a plein de gens qui répètent sans arrêt ce genre de choses, que tout ça c'est risqué, ceci, cela, et je ne parlerai même pas des personnes élitistes qui essaient de vous faire croire que ce sont elles les seules personnes qui savent faire du BDSM, qui ont le droit, entre guillemets, de faire du BDSM, et vous, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit, à moins d'aller en club, de vous faire accepter, etc. Chose totalement ridicule, hein, je sais que je me répète et que je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est une attitude assez répandue qu'il faut combattre. Ce n'est pas parce que quelque chose peut être dangereux quand on le fait de façon intense, ou qu'on fait n'importe quoi évidemment, mais ça c'est vrai pour tout, que on ne doit pas le faire. Sinon, on ferait plus rien. Je prends un exemple tout bête, hein. Sortir dans la rue, ça peut être dangereux. Vous pouvez vous faire faucher par un vélo qui arrive sans prévenir, par une voiture qui arrive sans prévenir, ou qui respecte pas le feu rouge, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. C'est évident que vous n'allez pas arrêter de vivre parce qu'il y a un potentiel risque éventuel dans certains cas. Pour BDSM, c'est pareil, hein. Je sais que je me répète, mais il n'y a pas de raison de s'en priver, sous prétexte que, oui, certes, un certain nombre de choses sont plus ou moins dangereuses, ou en tout cas peuvent l'être si on les fait de façon intense. Parfois, il y a des risques, il faut bien le reconnaître, qui ne sont pas évidents. Certains ne sont pas du tout évidents, même si on utilise son bon sens, son esprit critique, etc., on peut ne pas les comprendre, ne pas les percevoir. Mais dans l'ensemble, presque tout ce qui se fait dans le BDSM en général, et le bondage en particulier, du moment qu'on reste à des choses qui sont relativement légères, pas sur des durées extrêmement longues, etc., les risques sont vraiment minimum, à part bien entendu les choses imprévisibles, hein. Comme par exemple trébucher, ou évidemment des choses pas très amusantes du genre quelqu'un de la famille qui arrive dans la pièce alors que c'était pas prévu, ce qui est plus que gênant dans la plupart des cas. Un des grands problèmes quand on parle des problèmes et surtout des dangers des activités BDSM, c'est que derrière il y a presque toujours un ton assez alarmiste et très exagéré. Je vais vous présenter un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec le BDSM ou avec le sexe en général. De façon évidente, il n'y a pas de comparaison entre sortir à pied de chez vous pour aller chercher par exemple une baguette ou des croissants dans la boulangerie du coin et aller en expédition au pôle Nord pour 6 mois. Je pense qu'il est absolument évident que les préparations, le matériel et tout ce qui est nécessaire pour un voyage au pôle Nord, ça n'a rien à voir ni de près ni de loin avec juste une petite sortie de quelques minutes à quelques centaines de mètres de chez vous. C'est évident, pas vrai, hein. Je vous apprends rien, c'est trivial. Ben dans le BDSM, trop souvent, quand on parle des problèmes, quand on parle des dangers, trop souvent, on vous présente les choses comme étant le cas extrême, celui donc de « Oh là là, on va au pôle Nord pour 6 mois ». Mais ça, c'est le cas extrême qui concerne 0,0001% des gens. Ça n'a pas de sens de vous présenter que cet angle-là. C'est évident, n'est-ce pas, hein ? Et bien pourtant, alors que c'est si évident, pourtant, trop souvent, je constate qu'il y a un manque très important de nuances, un manque presque total. C'est-à-dire que ça manque presque toujours, en fait, de prise en compte du contexte. Parce que c'est là la clé, hein. Je sais que je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres épisodes et dans des articles, mais le contexte, c'est vital. Et je pense que ça vous paraîtra évident, mais ça va mieux en le disant, parce que faut vraiment que vous compreniez. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder les documentations, les écrits, les podcasts, les vidéos qui parlent de BDSM, Vous pouvez probablement pas vous rendre compte à quel point c'est répandu ces attitudes, mais c'est très répandu. Il y a une exagération, on considère que les cas assez hors normes, et trop souvent, c'est pas suffisamment mis en avant, parfois c'est complètement ignoré, que la plupart des gens ont pas du tout besoin de ce genre de conseils, c'est complètement absurde. Pire que ça, c'est pas juste absurde, c'est bloquant. Parce que si vous débutez et que vous avez pas mal d'hésitations, ce qui est parfaitement normal, hein, je connais bien ça, c'est naturel au début de vous dire, notamment pour des choses comme le bondage, est-ce qu'il n'y a pas tel ou tel risque? Est-ce que je vais savoir attacher quelqu'un? Est-ce que mon copain, ma copine va savoir m'attacher? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver ensuite à plus être capable de se détacher? Bref, c'est tout à fait normal de penser qu'il y a un certain nombre de problèmes, éventuellement de dangers. Mais quand on vous présente tout de suite un discours extrêmement alarmiste, ça a de quoi vous faire reculer. Et ce serait tout à fait normal hein, d'hésiter très fortement, voire de renoncer. Alors qu'il n'y a pas de raison. Bien sûr, vous le voyez, j'en suis sûr, ça peut devenir dangereux. Bien sûr, c'est évident, et je vais en reparler tout à l'heure. Mais c'est très mauvais de présenter les choses uniquement sous l'aspect le plus négatif pur, celui où on va uniquement vous parler du cas extrême, du cas très intense, etc., alors que vous, vous allez vous contenter probablement de quelque chose de très simple et qui n'est pas dangereux. Alors vous m'excusez hein, si j'insiste lourdement sur ce genre de choses, je sais que j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes, mais c'est vraiment super important. En plus de ça, je vais en parler tout de suite, un autre problème, c'est que quand on vous présente tous ces problèmes, ces soucis, ces dangers, souvent donc avec énormément d'exagération, paradoxalement, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve surprenant, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse en arriver là. Trop souvent, je vois présenter tel ou tel problème, certains sont très exagérés, certains sont imaginaires, certains ils ont absolument aucune raison de vous être présentés parce que ce sont des erreurs, c'est n'importe quoi, et je suis très gentil. Et à l'inverse, de vrais problèmes et de vrais risques sont ignorés ou complètement minimisés au mieux, mais en fait, dans la plupart des cas, ils sont tout simplement passés à la trappe, c'est-à-dire on n'en parle pas du tout. C'est un tout petit peu dommage quand ce sont des problèmes majeurs, mais bon. Je vais vous les présenter tout de suite d'ailleurs, ces problèmes majeurs qui sont trop souvent ignorés et qui sont très sous-estimés. Donc avant d'aller plus loin, hein, je me répète, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir tenter de faire du bondage, d'attacher quelqu'un ou de se faire attacher. Évidemment, comme je viens de l'expliquer, ça dépend de l'intensité, mais vous n'allez pas commencer par des choses totalement extrêmes, c'est évident. Vous n'aurez probablement pas le matériel de toute façon, et puis vous vous rendrez tout de suite compte que c'est pas possible de faire les choses, par exemple, que vous regardez sur Internet. Parce que ça s'improvise pas, des choses vraiment compliquées, notamment des choses de Shibari qui sont impressionnantes. Franchement, vous verrez si vous essayez de les reproduire, c'est pas évident. Si vous n'avez pas l'explication de comment ça marche, c'est pas si simple. Mais comme je dis toujours, il suffit d'utiliser un tout petit peu son bon sens, son esprit critique, et il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait des problèmes. Deuxième partie, les problèmes et risques majeurs dont on ne parle pas assez souvent et dont l'importance est trop sous-estimée. Je viens de le dire dans la partie précédente. Hein. Quand on parle des problèmes du bondage, il y a un certain nombre de points qui sont toujours mis en avant, souvent d'une façon exagérée et présentée mal en fait, et je ne vous parle pas du problème des fausses informations qui vous sont fournies alors que ça a aucun sens. Quand on fait du bondage, c'est sûr, il y a un certain nombre de choses dont il faut tenir compte et auxquelles il faut faire attention. Et si on pousse les choses, que ce soit en intensité ou en durée, c'est vrai, ça peut poser des vrais problèmes et ça peut être de vrais dangers. Je vais en reparler de tout ça dans la partie suivante. Mais avant de parler de ces problèmes-là, il y en a plusieurs qui sont trop souvent oubliés, et pourtant qui sont majeurs, qui sont absolument vitaux, et quand vous allez les entendre, vous allez vous dire « Ah bah oui, c'est évident !» Mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Et en plus de ça, ces problèmes-là, ils viennent en quelque sorte avant de faire du bondage, ou après. C'est-à-dire, c'est pas le bondage en soi qui est le problème, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Le premier problème, qui est absolument majeur, et d'ailleurs l'existence de ce problème-là va avoir une grande importance dans mon épisode suivant, le numéro 49. Ce problème, il va vous paraître évident tout de suite, c'est que qui dit bondage, donc attacher quelqu'un ou se faire attacher, veut dire que la personne attachée est à la merci de la personne qui attache. C'est particulièrement critique, bien entendu, si vous, vous désirez vous faire attacher. Mais c'est aussi un problème si vous voulez convaincre quelqu'un de vous laisser l'attacher. C'est évident, pas vrai, hein. Je veux dire, c'est totalement évident que dans toutes les activités du BDSM, le fait de se trouver attaché, donc de se trouver à la merci de l'autre, est le plus gros problème qui soit. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui puissent être pires, à part peut-être des choses du genre l'enfermement, mais là, c'est exactement le même raisonnement derrière. Être attaché ou être enfermé, ça revient à peu près au même. Là, même si vous connaissez pas du tout le BDSM, si vous connaissez pas les différentes pratiques qui font partie du BDSM, c'est évident que vous comprenez tout de suite que là, il y a un vrai problème, un vrai risque. Alors évidemment, le plus gros problème, c'est quand vous faites ça, du bondage donc, avec quelqu'un que vous connaissez pas bien ou vous connaissez pas encore. Un inconnu ou une inconnue, entre guillemets. Prenons un exemple simple, vous prenez un rendez-vous sur un site de rencontre BDSM, donc là, avec quelqu'un que vous connaissez pas réellement, pas encore en tout cas, ça va sans dire, ça vous a paru évident, que c'est très risqué si vous voulez, vous, vous faire attacher par cette personne inconnue. Et bien entendu, dans le sens opposé, hein, si vous contactez une personne inconnue pour que elle accepte que vous vous l'attachiez, vous comprenez immédiatement que cette personne, elle a de quoi avoir des hésitations et de sérieux doutes. C'est normal. Parmi les problèmes, vous avez évidemment que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est de mauvaise foi. Une personne qui sera plus ou moins agressive, plus ou moins abusive éventuellement. Je sais qu'on en parle trop souvent du terme prédateur, alors que c'est en réalité une infime minorité, même s'ils ont des effets disproportionnés. Mais bon, c'est possible de tomber sur quelqu'un qui a ce genre d'intention, malfaisante, bien entendu. Donc là, évidemment, vous comprenez le risque, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça, hein, comme problème. Vous avez un autre problème qui est si vous tombez sur quelqu'un qui est déraisonnable, par exemple quelqu'un qui est immature intellectuellement. Personnellement, hein, j'en ai rencontré des gens comme ça, des gens qui avaient la cinquantaine et qui avaient encore des mentalités, on aurait cru que c'était des enfants tellement ils étaient totalement incapables de se contrôler, que s'excitaient pour la moindre chose, etc. J'ose même pas imaginer ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles pourraient faire en privé et notamment dans des activités BDSM. Ça me fait frémir d'y penser, franchement. Donc là, même si au départ il n'y avait pas forcément vraiment de mauvaises intentions, si vous tombez sur des gens qui sont pas raisonnables, qui font n'importe quoi, qui ne savent pas quand il faut s'arrêter tout simplement, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, malheureusement, c'est un des grands risques du BDSM ça. La situation peut dégénérer. La personne peut exagérer, peut ne pas vouloir s'arrêter, ne pas respecter vos limites et quand vous dites stop, 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 ne pas vouloir s'arrêter, bref, ça peut mal tourner dans certains cas. Et même si vous êtes avec des personnes qui sont de bonne foi, il y a un problème qui est toujours présent dans les activités de type BDSM, c'est le problème de la communication. Alors, je sais bien que dans le BDSM, la communication c'est toujours placé sur une espèce de plateau mythique, où on dit « ah là là, il faut que ceci, cela, etc. » Tout ça c'est très bien, mais dans les faits, moi ce que je vois, et il suffit de voir les différents retours, les remontées qu'on peut avoir dans les forums ou que j'ai reçus personnellement, la vérité c'est que la communication c'est un mot. Pour trop de gens c'est juste un mot, c'est pas une réalité derrière. Et ça, c'est un vrai gros problème. C'est pas spécifique au bondage, c'est même pas spécifique au BDSM d'ailleurs, mais c'est un sérieux problème, même dans des personnes qui sont déjà en couple, qui habitent ensemble par exemple, ça reste un problème. Et même si on est des deux côtés de bonne foi, c'est possible d'avoir des soucis d'incompréhension, de pas être sur la même longueur d'onde, etc. Et que ça se passe mal, plus ou moins, hein, à cause de ça. Probablement d'ailleurs que ce sera beaucoup plus fort si vous êtes au début d'une relation et surtout si vous commencez à vous lancer dans des activités BDSM, notamment le bondage. Parce que on n'a pas de recul, hein, c'est normal quand on débute. Et donc il y a des problèmes du genre, on peut sous-estimer par exemple si on est la personne qui attache, les problèmes que ça pose d'être attaché. Et vice versa d'ailleurs, quand on est attaché, on peut très fortement sous-estimer, au départ quand on n'a pas déjà fait des essais, certains des problèmes que ça pose, notamment par exemple que de rester attaché assez longtemps, ça finit par devenir assez pénible. On s'en rend pas tout de suite compte de ça, mais une fois qu'on a l'expérience, ah ok, ouais, c'est super, mais là ça fait une demi-heure, j'en ai marre. Bref, je sais que c'est quelque chose d'évident, qui a été radoté des millions de fois, mais avoir vraiment un bon dialogue, une vraie communication, et pas juste parler, parce que je fais une opposition assez forte entre parler, de ci, de ça, de n'importe quoi, et vraiment communiquer, notamment sur les problèmes de relations et les problèmes sexuels. C'est quelque chose d'important, tout le monde dit oui, je fais attention à ça, mais moi je vois les faits, hein. Trop souvent, ça se passe pas si bien que ça, même chez les gens qui disent oui, c'est important, etc. Donc faut faire attention à ça. Je sais, c'est évident, je sais, je devrais pas avoir besoin de dire des choses comme ça, mais ça reste un problème. Et croyez-moi, hein, j'ai reçu des témoignages, c'était pas plaisant à lire, et il y avait beaucoup de soucis qui étaient liés, pour une grande part, hein, à ça tout simplement. Et puis je cite un dernier problème de la même catégorie, qui est assez désagréable, c'est que parfois, et c'est en partie relié donc à ces problèmes de communication, mais c'est aussi parfois des problèmes de comportement de certaines personnes, c'est que vous pouvez, si vous êtes la personne qui attache, vous retrouver dans une situation où en apparence tout s'est très bien passé, mais à la fin, quand on a terminé, quand c'est fini, vous pouvez découvrir que la personne qui était attachée, elle réagit mal, et soudain, elle commence à dire que « Oh là là, elle se sentait pas bien de ci, de ça, enfin bref, on commence très vite, vous voyez, à parler d'abus et de comportements abusifs, etc., alors que vous, vous tombez des nues parce que vous attendez pas du tout à ce que soudain la conversation tourne vers ça. Alors ça, ça peut arriver pour deux raisons, hein. Un manque de communication, un refus surtout de communication. Alors ça, je l'ai déjà vu à plein d'endroits, ça. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas leur tirer les vers du nez, il n'y a rien à faire, elles veulent pas communiquer. C'est un très gros problème, hein, et très difficile à résoudre. Et vous pouvez donc, dans certains cas extrêmes, mais ça arrive, hein, vous retrouver au pied du mur, parce que tout s'était en apparence bien passé, mais en réalité, la personne qui était attachée avait ou pensait avoir un problème, voulait arrêter, par exemple, mais ne voulait pas le verbaliser. Et là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les conséquences que ça peut avoir. Ça peut être totalement catastrophique, pour les deux parties, évidemment. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Ce problème fondamentalement de confiance, hein, parce que c'est ça le vrai problème. En fait, il n'y a pas vraiment de solution simple. Hein. Je pense que je vous surprends pas. Tout ce qui est relations humaines, c'est compliqué. Si vous écoutez ce podcast, je pense que vous avez déjà des expériences, que ce soit des expériences de relations de couple, ou tout simplement même dans la famille, dans les gens qui sont proches de vous, dans votre entourage, vous savez bien qu'il y a des problèmes dans les relations. C'est évident, hein. Et même quand on est en couple, ou au moins quand on fait des rencontres, il y a toujours ce problème-là de la confiance dans, tout simplement, le caractère de la personne en face, est-ce que c'est quelqu'un de raisonnable, etc. Donc ça, c'est vraiment très difficile à résoudre, évidemment, hein, je vous apprends rien. Par contre, il y a une possibilité pour minimiser ce genre de problème qui ne dépend pas des relations entre les gens. C'est que, là j'ai parlé de bondage, et j'ai dit, le bondage vous met à la merci, ou vous mettez quelqu'un à votre merci. C'est le problème de fond, hein. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. Il est tout à fait possible de trouver des moyens de faire du bondage sans qu'il y ait vraiment ce côté être à la merci totalement. L'exemple le plus simple, c'est quand on utilise des menottes. Personnellement, la plupart du temps, j'utilise en fait des menottes super basiques achetées en sex shop qui utilisent du scratch. Vous savez, la même chose qu'on utilisait et qu'on utilise encore de temps en temps sur des chaussures de sport par exemple. Le gros avantage de ce genre de menottes, c'est que même si la personne attachée donc est tenue sur le lit par exemple par quatre menottes, hein, je vais dire qu'on en a deux au poignet et deux aux chevilles, et donc elle ne peut entre guillemets pas bouger, en réalité elle peut se détacher elle-même. Imaginons le pire des cas, la personne qui attache fait un malaise, tombe au sol, il y a un accident, quelque chose. Là évidemment, il n'y a pas de problème de relationnel, hein. Le souci c'est que quand on est attaché, faut pouvoir se détacher seul. Si la personne qui attache a un problème, un accident, un malaise, ça peut être dramatique. Dans le cas de bondage très intense, dont on ne peut pas se libérer seul, là, ouais, ça va être dramatique. Mais il y a plein de façons de s'attacher qui sont donc pas si intenses qu'on ne puisse pas se détacher soi-même, et donc le meilleur exemple, ce sont les menottes dont je viens de parler, où avec un effort qui normalement devrait être plutôt minimal, on peut, avec chacune des mains, détacher le scratch, tout simplement en le tirant. Alors évidemment, certains modèles de menottes le rendent plus facile que d'autres, et dans certains cas, ça peut être un peu difficile. Mais normalement, c'est possible de se détacher seul. Pour les poignets, bien évidemment. Après, les chevilles, une fois que les poignets sont libérés, c'est plus un problème. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la solution qui résout, ou au moins qui minimise, le gros problème fondamental de se faire attacher ou d'attacher quelqu'un. C'est clair que vous aurez beaucoup moins de mal à convaincre quelqu'un de se faire attacher si vous lui dites, tu vois, avec ces menottes-là, même si je tombe par terre parce que je me suis évanoui, tu peux t'en détacher au prix d'un effort normalement minimal. Personnellement, quand j'ai invité des filles qui connaissaient pas vraiment le BDSM et que j'aurais proposé de se faire attacher sur mon lit, par exemple, vous imaginez bien, j'ai pas immédiatement proposé des saucissonnages ou bien des grosses menottes effrayantes. Ce que je leur propose, et je leur montre des petites menottes légères, de couleur rose, qui font pas peur, et qui ont un scratch où on voit bien qu'on peut se libérer seul, et quand elles voient ça, c'est pas du tout la même chose que si je leur disais « Ben voilà, je vais t'entourer de 200 mètres de corde et te suspendre comme un saucisson au plafond. » C'est évident, hein. Donc si vous voulez résoudre ce problème-là, la solution, vous voyez, enfin, la plus simple, parce qu'il y en a d'autres, c'est vraiment des petites menottes légères avec du scratch qui se détachent facilement. Il existe d'autres possibilités, notamment des manipulations sur les cordes, mais je veux pas entrer dans ce genre de détails, c'est trop compliqué. Un deuxième problème, qui est trop souvent sous-estimé, il est presque jamais cité, je comprends pas pourquoi, c'est que quand vous faites du bondage, souvent, l'intérêt du bondage, ça va être d'utiliser plus ou moins des cordes. Et les cordes, vous vous en doutez, même si vous avez jamais essayé de faire du bondage, ça peut très facilement laisser des marques sur la peau. Même si on n'en fait pas de façon hyper intense, ça peut marquer. Ça dépend de la personne, hein, bien sûr, il y a des personnes qui marquent beaucoup plus facilement que d'autres, mais là, c'est clairement un problème potentiel, pas négligeable quand on utilise des cordes. En principe, ce problème-là, il doit pas exister avec des menottes. Du moins, c'est plus difficile d'avoir des marques avec des menottes. C'est pas impossible, mais je vais pas entrer dans les détails. Là où c'est le plus marquant, sans jeu de mots, c'est quand on utilise des cordes. Alors évidemment, quel est le problème? Le problème, c'est que si vous avez des marques, elles vont pas partir dans les 5 minutes généralement, et donc qu'est-ce que vous faites quand vous sortez et que vous allez, par exemple, rencontrer des personnes de votre famille, des collègues, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça va attirer l'attention. Bien sûr, ça dépend de l'endroit où vous allez avoir les cordes et où vous allez avoir les marques, mais la plupart du temps, on fait ça sur quoi? On fait ça au niveau des poignets, éventuellement des chevilles, mais c'est les poignets qui posent le plus de problèmes. C'est difficile de cacher vos poignets aux personnes de votre entourage. Et des grosses marques aux poignets, ça ne peut pas ne pas attirer l'attention et ne pas créer des tas d'interrogations et de problèmes. Ça peut montrer que vous êtes intéressé par des choses du genre BDSM, ce qui peut être très gênant, hein, parce que le BDSM, ça reste quand même quelque chose d'assez mal perçu, de sulfureux, etc. Hein. Et puis après, vous avez l'autre problème, qui est bien connu, et vous y avez probablement pensé, c'est que ça peut donner l'idée, l'impression que vous vous êtes fait agresser, que vous êtes dans une relation abusive, ce genre de choses. Et là, vous avez beaucoup de problèmes, parce que même si vous expliquez « non, non, c'est rien, ceci, cela », les gens autour de vous vont peut-être pas vous croire, vont peut-être s'en mêler, ou bien garder à l'esprit des choses bizarres que vous voulez pas, ça peut poser de vrais problèmes. Surtout si c'est dans votre famille, vis-à-vis de votre partenaire, par exemple. Vous imaginez la situation? Et la deuxième hypothèse, c'est que les personnes gardent en tête ensuite, même si elles ne le disent pas, que vous faites des choses qui sont, dans leur esprit, hein, bien sûr, pas fraîches, hein, parce que le BDSM, ça reste mal perçu, etc. Et ça aussi, ça peut poser plein de problèmes. Alors, je pense que ça vous paraît évident, hein, que c'est un problème, mais vous voyez, c'est très, très peu évoqué, et ça, je comprends pas pourquoi. Ça devrait être un des points majeurs quand on parle des problèmes du bondage, avec des cordes surtout. Ça devrait être mis en exergue que, attention, si ça vous laisse des marques, ça peut ensuite être gênant vis-à-vis de votre entourage, la famille, les collègues, etc. Je voudrais revenir pour un troisième point sur quelque chose que j'ai déjà évoqué quand j'ai parlé du problème de se mettre à la merci de quelqu'un. C'est le problème de fond en général du BDSM, c'est tout ce qui est communication, échange. Comme je l'ai déjà évoqué, je vais être beaucoup plus bref, mais c'est vraiment un point qui est important, qui est très important, et pourtant qui est très simple, hein, on parle pas de choses particulièrement poussées là. Notamment, l'un des plus gros problèmes, c'est au moment où quelqu'un est attaché, si la personne ne dit pas tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est un très gros problème, et ça peut déclencher de vrais soucis, et ça peut tourner même dans les pires cas, hein, à la catastrophe. Je prends un exemple, vous avez des liens qui sont posés sur vous, par exemple, vous commencez à sentir un peu que, par exemple, la jambe s'engourdit, vous avez un petit peu des problèmes au niveau du pied, vous le sentez plus trop, enfin, bref, vous vous sentez pas bien. Là, il faut le dire tout de suite. Alors, il y a des chances que ça vous paraisse totalement évident, ce que je viens de dire. Vous allez vous dire, ouais, il radote, là, c'est vraiment quelque chose d'évident. Je le ferais, moi, si j'étais dans cette situation-là. N'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Pour des tas de mauvaises raisons, hein. Et ça, c'est très, très, très problématique. Donc, je le répète, encore une fois, pour que vraiment, que ce soit bien clair dans votre esprit, éventuellement l'esprit de votre partenaire, ça dépend de qui est la personne attachée, mais il faut jamais hésiter à signaler quand il y a un problème. Et à signaler tout de suite. C'est-à-dire quand il est encore temps d'intervenir. Pas trop tard, quand il est un peu trop tard et que les problèmes peuvent être très très graves. Dans le pire des cas, en tout cas. Troisième partie, des problèmes et dangers divers. Alors voilà, dans cette partie, je vais parler des problèmes, des dangers qui sont, eux par contre, le plus souvent abordés dans des textes, dans des vidéos, etc., qui parlent des dangers du bondage, dont le shibari, hein, bien entendu. Avant d'entrer dans les détails, je répète un point qui est super important. Tout ça, ça dépend avant tout de l'intensité et de la durée. C'est évident que si vous faites juste une petite boucle vague avec une cordelette autour des chevilles, par exemple, de votre partenaire, il n'y a pas vraiment grand risque. Si par contre, vous faites tout un tas de nœuds extrêmement serrés, que vous faites ça de façon très forte, et en plus de ça, que vous le faites sur la durée, là par contre, ça devient problématique potentiellement, et ça peut devenir vraiment dangereux, évidemment. Pour ce qui est de la durée, c'est assez important d'en parler, parce que, en fait, même des choses qui sont assez peu risquées, même des choses qui sont pas très intenses, peuvent poser problème, hein, si on abuse sur la durée. Je vous donne un exemple trivial qui n'a rien à voir avec le BDSM. Il y a d'assez fortes chances que vous sachiez nager, que vous ayez déjà par exemple été à la piscine, à la mer, ce genre de choses. Je pense que c'est évident que se baigner pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas un problème. En tout cas, pour la plupart des gens, ça devrait pas en être un. Maintenant, si je parle de nager pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, même dans la piscine, Je pense que vous comprenez que là, ça commence à être problématique. Il y a beaucoup de gens qui n'y arriveraient pas, parce que c'est trop long. La durée, c'est important, même si l'intensité de ce qu'on fait, elle est pas très forte, on peut avoir des problèmes. C'est juste la fatigue, par exemple, hein, le fait d'être dans des positions qui sont pas totalement naturelles, et puis, je vais en parler tout à l'heure, quand on a des compressions, même si elles sont pas très fortes, ça peut poser des problèmes, notamment des fourmis, des choses comme ça, je vais en parler tout à l'heure plus en détail. Je viens de parler de deux facteurs majeurs, l'intensité et la durée. Il y a un troisième facteur qu'il faut pas négliger, c'est tout ce qui est position. C'est-à-dire, la personne attachée, on peut l'attacher dans plein de positions possibles. Une des positions les plus basiques, ça va être par exemple quelqu'un qui est assis sur le lit et à qui on attache les poignets, éventuellement les chevilles. Mais souvent, pour en tout cas les genres de choses par exemple que moi je fais, l'envie qu'on aura, ce sera plutôt d'attacher la personne au lit, c'est-à-dire au montant du lit. Typiquement, ça va être ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire attacher quelqu'un en croix avec les bras écartés, les jambes écartées et attaché au montant du lit. Ce qui est une des meilleures positions pour ensuite faire plein de choses à la personne attachée, évidemment. Mais il existe aussi pas mal d'autres positions qui sont plus difficiles à tenir et qui sont plus délicates. Un exemple assez connu, je pense, ou au moins auquel on peut penser assez rapidement, c'est de mettre les jambes de la personne qui est attachée soit plus ou moins en l'air, soit rapproché de la tête, et maintenu, écarté typiquement, hein, pour avoir un meilleur accès à la personne et pouvoir faire plein de choses. Et là, vous voyez, même si c'est pas encore quelque chose de très compliqué, il n'empêche que déjà, on commence à demander plus d'efforts à la personne. Avoir des membres comme ça qui sont en l'air, c'est pas forcément si facile à tenir. Même quand on a des cordes pour soutenir un minimum, hein, il y a plein de techniques, alors là, je vais pas entrer dans les détails, mais il y a plein de techniques pour minimiser justement le stress que ça donne dans les membres, en utilisant par exemple des sangles avec des gros morceaux de tissu pour aider à absorber la tension et la pression, et puis on met ça sur les jambes pour aider la personne à tenir les jambes en l'air sans que ce soit trop douloureux. Mais même si on arrive à faire ça, c'est une position déjà qui est nettement moins confortable, et même si ça va pas forcément poser un problème tout de suite, on peut après avoir des petits soucis, comme par exemple, plus ou moins des courbatures et des choses comme ça. Et là, je parlais de quelque chose qui est encore relativement simple et pas encore trop contraignant, mais il y a plein d'autres positions possibles dans lesquelles le corps de la personne attachée est plus ou moins plié. Notamment, vous avez des positions où on replie les jambes sur le corps. Par exemple, on ramène plus ou moins les genoux sur la poitrine, ce genre de choses. Bref, il y a pas mal de positions comme ça qui sont certes intéressantes, qui permettent de faire des choses intéressantes, qui peuvent être jugées très sexy et tout, mais qui amènent vraiment beaucoup de stress, une grande tension sur le corps de la personne attachée. Et là, faut se méfier. Faut se méfier parce que c'est fatigant. Et en plus de ça, ça augmente fortement les risques, notamment les problèmes au niveau des veines et des nerfs dont je vais parler tout à l'heure. Ça augmente les risques au niveau aussi de laisser des marques, de laisser des traces. Bref, si on fait ce genre de choses, faut se méfier. Ce sont des choses que je dirais sont relativement intenses, mais ce qui est surtout important, c'est la durée en fait. C'est-à-dire faire ça pendant 2-3 minutes, ça va. Le faire pendant une demi-heure, ça commencerait à être risqué. Le faire plus, si on fait vraiment les choses que je viens d'écrire là, c'est probablement déraisonnable, voire très déraisonnable, à part bien entendu si on est très entraîné, très sportif, etc. Donc faut pas oublier ce facteur-là aussi, hein, il est relié à l'intensité et à la durée. Ce sont vraiment trois facteurs qui jouent ensemble de façon très forte. En résumé, si vous voulez faire des choses qui sont un tout petit peu comme ça, dans des positions pas totalement naturelles, un peu difficiles à tenir et qui apportent du stress, il faut vraiment faire beaucoup plus attention. Un deuxième point qui est tout bête et qui est assez souvent évoqué, un peu trop souvent en réalité, mais c'est le problème de plus pouvoir détacher la personne qui est attachée. Alors là, évidemment, il y a deux choses qui viennent à l'esprit. Il y a la personne qui est attachée avec des cordes et on a fait des nœuds qu'on n'arrive pas à défaire, et là, c'est un peu la panique. Le deuxième, c'est le coup des menottes dont on a perdu la clé. Alors, pour la corde, c'est vrai que ça peut être un problème, et si on connaît pas, qu'on fait plein de nœuds alors que c'est pas en fait nécessaire la plupart du temps, on peut faire effectivement des nœuds qui sont difficiles ou impossibles à défaire. Ça peut arriver. Alors, pour éviter ce genre de problème, c'est assez simple, hein, vous vous en doutez certainement. Faut avoir une paire de ciseaux adaptés, hein, de préférence qui ont pas des bouts super aigus, pointus, etc., pour dans le pire des cas être capable de couper la corde. Mais faut dire la vérité, le problème viendra sûrement d'abord du fait d'avoir mal choisi les types de cordes, par exemple des cordes qui sont trop fines, et puis aussi d'avoir mal choisi les nœuds ou d'avoir abusé sur les nœuds. Alors après, ça peut arriver aussi parce que vous avez par exemple la personne attachée qui a beaucoup tiré sur ses liens, et là ça a pu resserrer les nœuds de façon un peu imprévue. Ça peut arriver, hein, évidemment. Dans un cas normal, vous devriez pas trop avoir ces problèmes-là, mais comme ça arrive, la solution c'est vraiment les ciseaux. Maintenant, vous avez un autre cas, donc c'est le cas des menottes dont on a perdu la clé. Alors personnellement, j'ai un peu de mal à la comprendre, cette problématique-là, parce que visiblement c'est un problème qui doit être relativement fréquent, puisque j'ai lu sur un certain nombre d'articles, de commentaires de forums, des discussions sur ça, et par exemple, je me rappelle avoir lu des articles qui disaient que les pompiers, notamment à certaines époques de l'année, les époques où les couples se jettent dans des ébats de type BDSM, étaient assez régulièrement appelés par des gens qui sont coincés parce que les menottes, elles sont fermées, la clé ne marche pas ou est perdue, et tout le monde n'a pas une pince Monseigneur pour se détacher. Alors j'en profite puisque je parle de la pince Monseigneur. Vous pouvez trouver facilement, pour à peine une dizaine d'euros, une petite pince justement qui est faite pour couper des chaînes, par exemple. On appelle parfois ça une pince coupe-boulon, et on peut en trouver une basique à une dizaine d'euros. Donc si vous avez des problèmes, des peurs à ce niveau-là, vous pouvez vous procurer donc une pince de ce genre-là. Moi j'en ai une chez moi parce que je fais des tas d'opérations avec des chaînes, et j'ai besoin donc de couper les chaînes aux bonnes longueurs. Mais ça peut aussi servir donc à couper une menotte qui serait rétive. Maintenant, la raison pour laquelle je comprends pas le problème, c'est que, en tout cas pour les menottes métalliques qui sont vendues dans les sex shops, typiquement les choses bas de gamme, que, entre parenthèses, je recommande surtout de ne pas utiliser, de ne pas acheter. C'est de la cochonnerie dans presque tous les cas, c'est pas cher et ça se voit que c'est pas cher, et c'est dangereux pour les poignets. Ça fait mal aux poignets, ça peut vraiment abîmer les os au niveau des poignets, et en plus de ça, ce genre de menottes bas de gamme, elles sont mal fichues, c'est-à-dire une fois qu'elles se ferment, on ne peut pas les bloquer en position fermée, on peut continuer à les fermer de plus en plus fort, il n'y a pas de bloqueur pour empêcher qu'on aille au-delà d'un certain seuil. Et ça c'est super mauvais et c'est dangereux. Mais évidemment, faut pas s'attendre à mieux pour du bas de gamme. Alors moi, pour ce que j'ai pu voir comme menottes bas de gamme qui étaient vendues dans les sex shops, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il y avait un petit poussoir sur le côté qui permet d'ouvrir la menotte. Celle que j'ai, par exemple, que je n'utilise pas, hein, mais que j'ai chez moi, je n'ai même pas besoin de la clé, parce que quand je les ferme, par exemple, pour faire des photos, pour montrer le modèle à ne surtout pas acheter, eh bien, il me suffit de pousser le petit bouton sur le côté pour qu'elle s'ouvre immédiatement. Et j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé des photos avec attention, et à chaque fois, j'ai vu qu'il y avait l'équivalent sur toutes les menottes pour lesquelles j'ai vu passer des photos. Alors du coup, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les gens ont du mal à les ouvrir. Alors peut-être qu'il en existe des modèles, certainement qu'il en existe des modèles qui n'ont pas ce mécanisme de sécurité, mais des modèles d'entrée de gamme, ça me surprend un peu, mais il faut croire que ça existe. Et par contre, pour des modèles plus sophistiqués, là, ça ne sera probablement pas présent, hein, ce mécanisme de sécurité. Mais là, je n'en parlerai pas en détail, parce que c'est des modèles qui valent tellement cher que ça vaut pas la peine de vous y intéresser si vous débutez. Maintenant, un problème majeur qui est vraiment important, et qui est évident, mais parfois apparemment les gens ils y pensent pas, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber quand on est attaché. La première chose à laquelle vous allez penser quand je parle de ça, c'est que vous allez vous dire « Oui, c'est évident, faut pas faire de bondage quand on est debout, parce que par exemple, si on a les pieds qui sont attachés, on peut trébucher, on peut avoir un vertige et tomber. C'est évident. » Donc il y a ce problème-là, qui est tellement évident que je ne le cite que en passant, mais en fait, c'est plus sournois qu'on pourrait le penser, et j'ai consulté différents articles qui évoquaient des problèmes auxquels on pense pas toujours. Alors personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Même quand on est assis, même quand on est sur un lit, c'est possible de tomber. Alors, je m'explique. Quand on est assis, évidemment, la hauteur de chute est beaucoup plus faible, hein. Mais ça n'empêche que si la personne se débat, la personne qui est attachée, se débat ou à un malaise, hein, du genre un vertige, parce qu'on a une baisse de tension artérielle, par exemple, on peut quand même tomber, même pas de très haut, mais se faire mal, et j'ai vu des articles où ils disaient qu'une des spécialités, entre guillemets, des personnes qui étaient dans leur club BDSM, c'était qu'elles arrivaient toujours, alors ils le disaient un peu de façon humoristique, hein, c'est qu'elles arrivaient toujours, quand elles tombaient, à s'arranger pour tomber sur le visage. Et évidemment, là, même si la chute, elle est pas très haute, vous pouvez sérieusement vous faire mal, vous casser le nez, ce genre de choses. Le deuxième point possible, c'est si vous êtes sur le lit. Alors là, si vous êtes sur le lit, évidemment, vous êtes sur un matelas, donc ça devrait amortir les chocs, dans une grande mesure en tout cas. Mais c'est quand même possible de tomber du lit, bien sûr. Donc là, c'est plus ou moins grave. Si votre lit, c'est un lit qui est très bas, du genre 20-25 cm de hauteur par rapport au sol, la chute, elle est assez faible, donc le risque, il est relativement faible. Enfin, on peut quand même se faire mal, hein. Par contre, si vous avez un lit un peu moyen, là, qui fait dans les 50-60 cm de hauteur, là, ça fait une sale chute quand même, et même si c'est pas aussi horrible qu'en étant debout, ça peut vraiment faire mal, hein. Enfin, vous le comprenez sans problème. Donc, même quand on est sur le lit, faut quand même faire un petit peu attention. Si on a attaché quelqu'un sans que la personne soit en même temps retenue, par exemple, par les côtés du lit avec des liens, elle peut se débattre, être ficelée sur le lit, mais se débattre, par exemple, quand on fait des chatouilles. C'est une pratique typique, hein, quand on fait du bondage. Et la personne pourrait assez aisément tomber du lit et se faire sérieusement mal. Donc, faut garder ça à l'esprit. C'est aussi un truc assez évident, mais faut quand même le garder à l'esprit, ça arrive. Une autre question qui se pose parfois, c'est des personnes se disent « Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Est-ce qu'on risque pas de s'étrangler ?» Alors, personnellement, je trouve toujours que c'est un peu surprenant d'avoir cette question, parce que j'imagine que vous qui m'écoutez, vous allez vous dire « Ouais, enfin, faut être quand même un peu idiot pour se mettre une ficelle autour du cou. » C'est forcément dangereux, c'est le truc dangereux. J'ai même pas besoin de l'évoquer pour que vous compreniez que c'est super dangereux. Donc non, faire du bondage, on risque pas de s'étrangler parce que la plupart des gens vont pas se mettre de corde autour du cou. C'est complètement absurde de faire ça. Je vais même pas entrer dans plus de détails. C'est tellement évident que je vais pas vous insulter en insistant sur ce sujet, mais c'est quand même un sujet que je devais aborder, même si c'est rapidement, parce que on le trouve vraiment régulièrement, ce genre de questions et ce genre de problématiques, dans des articles qui discutent de ces sujets. Alors personnellement, je comprends pas très bien pourquoi, parce que franchement, c'est un type d'avertissement qui serait utile pour des enfants, certainement pas pour des adultes. Enfin voilà, je voulais juste le déblayer, même si c'est complètement absurde comme avertissement, et que je n'ai aucun doute que jamais vous auriez imaginé de faire ce genre de choses, c'est tellement absurde. Un autre point que j'avais pas vraiment abordé tout à l'heure, j'avais parlé du problème de choix de corde et de choix de nœud. Il y a une chose que j'avais pas dite, mais maintenant je la rajoute. Dans les nœuds, il y en a quand même dont il faut se méfier, et surtout il faut se méfier des nœuds coulants. Parce qu'en fait, le problème, évidemment, c'est qu'un nœud coulant, ça peut se resserrer encore et encore, surtout si on tire dessus. Et là, vous risquez d'avoir une intensité, une pression portée par la corde qui est forte, même quand on n'est pas suspendu. Bon, quand on est suspendu, c'est quasiment du suicide, hein, de faire ça, mais même quand on n'est pas suspendu, c'est mauvais d'utiliser des nœuds de ce genre-là. C'est pour ça que dans l'article dédié aux nœuds que vous pouvez trouver sur mon site, dans la catégorie Bondage and Discipline, j'y présente des nœuds. J'y présente des nœuds coulants, mais j'explique que ces nœuds coulants, ils sont pas faits pour être mis sur le corps de la personne. Ils sont utiles, par exemple, pour attacher votre bout de corde à un montant de votre lit, par exemple, mais pas sur la personne. Sur la personne, on utilise des nœuds qui ne peuvent pas se refermer, ils sont fixes. C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer en format podcast, donc si ça, ça vous intéresse, ce qu'il faut, c'est que vous alliez regarder soit des articles comme celui que j'ai dédié aux nœuds, soit que vous regardiez des vidéos, par exemple sur YouTube, hein, y a plein de vidéos qui expliquent les nœuds typiques qu'on utilise pour le bondage ou le shibari. Ils sont pas très difficiles à comprendre, avec une petite explication, vous comprendrez aisément, et il y en a, ils sont tellement simples que vous serez probablement surpris ou surprise de voir à quel point c'est facile en fait. Un autre problème qui est très souvent mis en avant, et souvent de façon extrêmement virulente, hein, parfois vraiment vous avez des articles qui insistent à fond là-dessus, et malheureusement qui n'expliquent pas leurs raisons pour insister là-dessus, ce qui est un gros problème. Il s'agit du risque de laisser quelqu'un qui est attaché seul. Avant d'entrer dans les détails de ce problème-là, je voudrais quand même souligner quelque chose, c'est que jusqu'à présent, j'ai jamais vu dans un seul article qui insistait lourdement, qui commençait généralement par ça, hein, qui disait « attention, le plus grand danger, blablabla », dans aucun de ces articles, je n'ai vu de prise en compte d'un autre problème qui pourtant est évident, c'est que se passe-t-il quand la personne qui attache a un problème ? Je l'avais évoqué tout à l'heure rapidement, imaginez, la personne qui attache tombe, trébuche, se fracasse le crâne sur le sol, ou a un malaise, ça peut arriver, bref, ne peut plus rien faire, elle est par terre, et la personne qui est attachée, là, ça peut être un problème. Alors je vais pas insister sur ce point, mais je trouve ça toujours un peu bizarre qu'on insiste lourdement sur certains problèmes, et bizarrement on oublie soit le pendant, soit d'autres problèmes qui existent aussi. Maintenant, si on parle de la personne qui est attachée, ce qui me gêne dans les articles qui parlent de ce sujet, c'est que en général, donc ils sont très incisifs, mais ils expliquent pas vraiment pourquoi il peut y avoir un problème, et surtout ils tiennent pas assez compte du contexte. Alors déjà, dans certains articles, une chose qui m'a un peu étonné, c'est qu'ils insistent lourdement sur des choses du genre le risque d'incendie ou, alors ça c'est typiquement américain, le risque d'avoir une home invasion, comme ils appellent, c'est-à-dire quelqu'un, un cambrioleur par exemple, enfin quelqu'un qui vous attaque chez vous. Alors ok, ces deux choses, c'est pas totalement impossible, mais franchement, c'est vraiment des choses, les dire c'est pour vous faire peur. c'est vraiment très exagéré. Je veux dire, c'est vraiment le dernier risque que je prendrai en compte, personnellement. Hein. C'est pas impossible, hein, attention. C'est pas totalement impossible, mais franchement, c'est tellement un risque dérisoire que je comprends pas vraiment qu'il y en ait qui insistent là-dessus. On peut le citer comme ça, mais c'est vraiment pas un gros souci comparé à tout bêtement d'avoir quelqu'un de la famille qui entre dans la maison au mauvais moment, et surtout d'avoir tous les autres risques que j'ai évoqués là, et ceux que je vais évoquer tout à l'heure sur les nerfs, etc., qui là sont vraiment, vraiment des vrais problèmes. Alors essayons de dépiauter le problème. Quel est le vrai souci? Évidemment, si vous avez votre partenaire, la personne qui est attachée façon shibari, avec une suspension par exemple, ou même juste fortement attachée, style saucisson, hein, comme j'ai dit tout à l'heure pour plaisanter un peu, là c'est évident que la personne, elle peut rien faire par elle-même. Elle pourra probablement pas se détacher elle-même. Et s'il y a un problème, c'est clair qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour aider. C'est évident. C'est dans ces situations-là que certains des risques qui sont décrits, par exemple, on commence à s'apercevoir qu'on a les membres qui s'engourdissent, etc. Je vais parler de tout ça dans quelques instants. Il y a aussi un risque éventuel qui va dépendre pour une bonne mesure de la façon dont la personne est positionnée. Le risque, ça va être, par exemple, que la personne, elle s'étrangle ou elle s'étouffe, ce genre de choses. Ça peut arriver si on a la salive qui s'accumule, par exemple. Et ça peut être vraiment risqué si on a un bâillon. C'est pour ça que les bâillons, faut vraiment s'en méfier quand on fait du bondage. Personnellement, je les déconseillerais plutôt. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein. Ça dépend du contexte, ça dépend ce que vous faites. Mais en résumé, c'est sûr que si la personne, vraiment, elle peut pas bouger, elle peut rien faire, le moindre petit problème peut assez vite empirer et devenir plus qu'un petit problème, devenir, dans les pires cas, quelque chose de grave, comme par exemple s'étrangler, s'étouffer. Dans ces situations, ça paraît raisonnable de dire qu'il faut pas laisser la personne hors de vue, du moins pas plus que quelques secondes le temps d'aller par exemple au bout de la pièce chercher un accessoire BDSM, ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est que ce qui me gêne quand on parle de ce genre de choses, c'est que ça implique presque toujours que la personne, elle est justement, comme je viens d'expliquer, saucissonnée, ou bien suspendue, façon shibari, enfin qu'on fait des choses assez intenses. Mais si tout ce que vous faites, c'est juste d'avoir mis la personne sur le matelas et de l'avoir attachée simplement en mettant des menottes aux poignets et aux chevilles, là vous voyez, c'est un exemple où franchement la personne, elle peut très bien se débrouiller dans presque toutes les situations. Donc cet avertissement là, il a plus vraiment de sens. C'est même plus qu'il est relatif, c'est qu'il a pas de sens du tout. Et ensuite vous avez la situation un peu entre les deux, où la personne est plus sérieusement attachée, où elle a du mal à bouger. L'exemple de tout à l'heure est un bon exemple, celui de la personne attachée en croix, bras et jambes écartés. Même si c'est juste avec des menottes dont on peut se détacher, c'est vrai, c'est possible qu'il y ait des petits soucis, et là, dans le pire cas, je le reconnais, ça peut être un problème. Si par exemple la personne soudain s'étrangle ou a un problème, surtout si vous avez voulu mettre un bâillon. Là effectivement, même si elle est capable de se détacher par elle-même, s'il y a un moment de panique, etc., si vraiment il faut se détacher en un instant, là c'est clair, faut le reconnaître, c'est pas possible si on est en pleine panique d'arriver à garder son sang-froid suffisamment longtemps pour même détacher quelque chose de très facile à détacher. Cela dit, dans la plupart des cas, dans la plupart du temps quand même, je pense que c'est un peu exagéré de dire qu'il faut absolument pas quitter la personne des yeux. Je pense pas que ce soit spécialement risqué de vous éloigner ne serait-ce qu'une minute ou deux pour aller aux toilettes par exemple, quitte si vous avez un doute à faire, que moi je ferais, hein, c'est-à-dire au moins à détacher partiellement un des poignets de la personne. Comme ça on sait que la personne, elle peut se tourner sur le côté si jamais par exemple elle est en train de s'étouffer, elle peut se tourner sur le côté, ce que de toute façon vous pourriez pas faire beaucoup mieux si vous étiez là, hein, franchement. Donc je dis pas qu'il n'y ait pas besoin de faire attention. C'est sûr que c'est mieux si on peut être là en permanence. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ce qui me gêne quand on parle de ce sujet-là, c'est qu'il y a presque toujours une exagération dans le « Oh là là, ce serait catastrophique, c'est super dangereux, et puis l'incendie, un bandit vient avec un fusil, etc. » Bon, faut quand même relativiser un petit peu. Maintenant, pour être bien clair, hein, je veux pas dire non plus qu'il faut laisser votre partenaire, ou que votre partenaire vous laisse pendant une demi-heure le temps d'aller faire des achats à l'extérieur, ou plusieurs heures. J'ai déjà lu des témoignages comme ça, hein, qui étaient assez bizarres. En toute sincérité, c'était plus que bizarre. De personnes qui s'absentaient comme ça pendant toute la journée en laissant quelqu'un attaché, et vraiment attaché, hein, sur un lit. Franchement, là, c'était un cas exceptionnel. Ça faisait peur à lire. Mais là, c'était un cas tellement déraisonnable que personne de normal n'aurait fait ça. Et d'ailleurs, le témoignage auquel je pense soulignait largement que c'était n'importe quoi et qu'il était furieux envers sa partenaire. Donc, ce que je veux vraiment souligner, c'est que il faut faire attention, il faut quand même, quand on est la personne qui attache, faire très attention, parce qu'on a une grande part de responsabilité, évidemment, mais cette attention, elle doit être d'autant plus intense qu'on fait des choses intenses. Et c'est sûr que si vraiment on a quelqu'un qui est totalement immobilisé, là, il faut faire vraiment attention. Et là, effectivement, je pense raisonnable de dire qu'on peut pas se permettre de s'absenter, sauf, comme je venais de l'expliquer, en détachant au moins partiellement la personne pour qu'elle puisse bouger. Voilà, je voulais juste un petit peu souligner, un petit peu remettre de contexte et de nuance sur ce point précis, parce que je trouve toujours que ça manque un petit peu de clarté quand on parle de ça. On vous fait un petit peu peur, c'est ça qui m'ennuie. On vous fait un petit peu peur alors qu'en réalité, une simple réflexion en utilisant un peu son bon sens permet de juger que oui, effectivement, c'est complètement déraisonnable et risqué de s'en aller si on voit que la personne est immobilisée. Je veux dire, c'est évident, on ne devrait pas avoir besoin de le dire. Un autre problème qui est là, très connu, qu'on met toujours en avant, et là c'est pas à tort, hein, c'est un vrai problème et c'est potentiellement un vrai danger à ne pas sous-estimer. Ce sont deux problèmes en fait, c'est les problèmes de circulation sanguine coupée et la pression sur les nerfs. Quand on fait du bondage, notamment du bondage avec les cordes, il est possible de faire passer les cordes à des endroits qui sont pas adaptés, notamment au niveau où il y a des veines et des nerfs qui sont plus proches de la surface, et là, si on serre trop, ça peut être mauvais ou très mauvais. Il y a le problème aussi de l'intensité et de la durée, hein, bien entendu, le plus gros problème étant la durée. Même si on ne fait pas les choses de façon super intense, les faire pendant longtemps, ça peut suffire à créer un problème. Même simplement en étant immobile, vous avez peut-être déjà eu ça, hein, on peut avoir des fourmis dans les bras, dans les mains, dans les pieds, ce genre de choses. Ça, c'est exactement le genre de problème qu'on peut rencontrer, évidemment, en faisant du bondage. Pour ça, il y a un certain nombre de choses à éviter. Il y a des endroits où il faut éviter de mettre des liens, et en tout cas de serrer fort. Mais là où il y a un très gros problème, c'est que ce genre de choses-là, en général, ça se sent pas tout de suite. Et ça, c'est très 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 dangereux, parce que c'est sournois. Je vais vous prendre un exemple opposé. Imaginons que vous faites quelque chose du genre une fessée. Si la personne qui reçoit la fessée trouve que c'est trop fort, elle le sent tout de suite, elle va dire tout de suite « aïe, on arrête ». Vous voyez, c'est immédiat, on sait qu'on doit s'arrêter. Maintenant, imaginez que la personne ne se rende pas compte que ça fait mal, et quand ça fait trop mal, hein, c'est un signe d'alerte en fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Imaginons que la personne ne le sache pas et qu'il y a un décalage de 10 minutes. Vous n'avez pas de raison que vous arrêtez, donc vous continuez. Mais si la personne, vraiment, elle trouvait que c'était vraiment trop, ça peut vouloir dire déjà qu'on atteignait une certaine limite, et là, peut-être que la personne, après, elle va en garder des bleus extrêmement forts, par exemple, ou pire. Et là encore, je parlais que de la fessée, c'est rien du tout comparé à certaines autres activités BDSM. Donc, dans le cas, par exemple, du fouet, de la fessée, etc., on peut ressentir la plupart des problèmes tout de suite. Bon, il peut y en avoir qu'on ne ressent qu'après, mais je vais simplifier. Par contre, quand on a des problèmes de pression sur les nerfs et de coupure de vaisseaux sanguins, en général, ça va pas se sentir immédiatement. Ça va se sentir plus tard, et notamment quand on aura enlevé les liens. Je vous prends un exemple que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure. Prenons l'exemple classique où vous êtes allongé sur le lit, par exemple, et vous changez de position, et soudain, au moment où vous changez de position, là, vous avez les fourmis, vous avez des problèmes, par exemple, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. C'est un classique, je pense que vous l'avez déjà expérimenté au moins une fois, probablement. Et là, vous voyez, c'est quelque chose dont on s'aperçoit pas immédiatement. Si vous aviez su dès le moment où il y avait justement, par exemple, le blocage d'un vaisseau sanguin ou de plusieurs vaisseaux sanguins, si vous en étiez aperçu tout de suite, vous auriez immédiatement changé de position et du coup vous auriez pas eu ce problème d'avoir des fourmis, etc. Seulement, on s'en aperçoit généralement que soit quand ça devient très fort, soit quand on change de position. Puisque quand vous changez de position, la pression s'enlève, hein, le sang recommence à circuler et c'est là qu'il y a le problème. Bref, comme je le disais tout à l'heure, c'est sournois et en général ça se sent pas tout de suite ou au moins pas très fortement tout de suite. Et du coup, il est très difficile d'agir quand le problème commence à se poser. C'est pour cette raison que vous verrez souvent dans des articles des avertissements disant « quand vous faites notamment du shibari, mais quand vous faites en général du bondage, et qu'il y a l'utilisation de cordes, de choses un peu serrées, il faut aller vérifier qu'on a toujours des sensations dans les doigts de pied, etc. Surtout dans les extrémités en fait. » La raison, c'est ça. C'est que si vous commencez à vous rendre compte que la personne attachée, ou si elle, elle arrive à se rendre compte en essayant de bouger les doigts, etc., qu'il y a quelque chose qui va pas, là, c'est un signe d'alerte. Il faut se dire, ouh, il y a peut-être un problème, faut soit qu'on ralentisse les choses, soit qu'on arrête. Et ça, vous voyez, c'était pas une évidence. Si on n'a pas fait déjà des essais, si on n'a pas déjà eu des problèmes, ou qu'on n'a pas eu un avertissement, ce sont pas des choses auxquelles on pense forcément, et on peut avoir un sérieux souci, voire un accident, parce qu'on savait pas. Ce qui est normal, hein, on peut pas le savoir à l'avance. Donc dans le cas de problèmes de circulation sanguine, l'impression qu'on a, ça va plutôt être des fourmis ou bien un engourdissement. Typiquement, ça se sent donc dans les doigts de pied. Et pour les problèmes de nerfs, ce qu'on appelle la compression de nerfs, là évidemment, la raison pour laquelle ça se produit, c'est quand la corde elle est placée à un endroit qui est pas correct, qui est un peu dangereux, et qui plaque un nerf, par exemple contre un os, et du coup le nerf il est donc compressé, hein. Et ça évidemment c'est très mauvais, et dans les pires cas ça peut être vraiment grave, hein. Là, pour en savoir plus, je vais vous référer à d'autres sources d'informations, parce que dans un format podcast, c'est pas très évident, parce que c'est assez visuel pour vous montrer les endroits où faut se méfier. Mais quand même, ce qui compte le plus, c'est l'intensité. Et là, bien entendu, j'aurais dû le préciser, je parle des cordes. Normalement, ce genre de choses, ça doit pas vraiment se produire avec des menottes. Ou alors, faut vraiment avoir forcé comme des fous sur les menottes, ou utiliser des menottes métalliques, là, dont j'avais parlé tout à l'heure, qu'il faut pas utiliser, qui sont pas adaptées et qui seraient trop fortement fermées. Mais typiquement, ça va être à cause de cordes, et surtout, bien entendu, ça se produira beaucoup plus facilement si on fait des choses beaucoup plus intenses comme des suspensions, puisque là, vous avez un poids énorme qui va peser sur les cordes. Donc forcément, ça augmente de façon absolument terrible le risque d'avoir ce genre de compression. C'est vraiment, vraiment dangereux. Les sensations quand on a comme ça des nerfs qui sont comprimés, écrasés, c'est pas totalement évident, ça dépend des personnes, ça dépend ce qui se passe. Donc je peux pas vraiment vous donner une explication super claire. Il y a des problèmes de sensations qui peuvent venir, comme par exemple donc les mêmes types d'impressions que j'avais décrit tout à l'heure, avec un peu l'impression de fourmi ou bien d'engourdissement, ce genre de choses, mais il y a d'autres sensations qui sont possibles. Et malheureusement, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça risque fortement de ne pas trop se sentir, ou du moins c'est pas super clair, tant qu'on n'a pas détaché la personne, qu'il n'y a pas eu un peu de temps qui est passé, et où là on s'aperçoit, ah, j'arrive plus à bouger ma main, qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses. Alors, je me répète, hein, mais ça peut vraiment être dangereux, et c'est une des raisons majeures pour lesquelles les suspensions dans le shibari, le bondage à la japonaise, sont si dangereuses. Je vous donne un exemple, même si c'est évident, hein. Moi, je pèse environ 68 kilos. Pour un homme, je suis même pas très lourd, parce que de nos jours, la moyenne, c'est plutôt dans les 80 et quelques kilos. Mais déjà, 68 kilos, c'est pas négligeable. Maintenant, imaginez ce que ça peut faire de se suspendre par plusieurs endroits, hein, parce qu'on se suspend pas par un seul endroit, bien sûr, avec plusieurs cordes qui font, par exemple, le tour au niveau des jambes, au niveau du torse, ce genre de choses. 68 kilos, c'est beaucoup, déjà. Et je vous laisse imaginer, quand on fait 80 kilos et plus, c'est beaucoup. D'avoir quelqu'un qui est suspendu, qui fait ce genre de poids, imaginez déjà juste prendre quelqu'un comme ça, qui pèse 68 ou 80 kilos, et la soulever dans vos bras. Bon, après, ça dépend de votre taille, de si vous êtes athlétique, etc., mais c'est pas forcément aisé, déjà. Mais si vous avez déjà soulevé, par exemple, des sacs de ciment, ou de terre, ou des choses comme ça, qui pesaient que dans les 20 à 30 kilos, en général, parfois 50, déjà, on le sent quand même, le poids. Maintenant, quand on prend quelqu'un qui, comme moi, pèse 68 kilos, et qu'on suspend au bout de quelques bouts de fil, j'exagère un peu, vous doutez aisément que le poids que supporte chacun des morceaux de la corde, il est important. C'est pour ça que quand on fait des suspensions, jamais on va suspendre quelqu'un avec juste une ou deux boucles de corde, mais on double la corde et ensuite la corde elle-même, elle est entourée, enroulée autour du corps plusieurs fois. Plus, il y a d'autres techniques, je vous passe les détails, pour étaler en fait la pression sur la plus grande surface de corde possible. Parce que là, vous imaginez, 68 kilos, si je me suspendais, par exemple, en me tenant d'une seule main à une corde, vous avez pas de mal à comprendre que je tiendrais pas très longtemps dans cette position-là, parce que ça me scierait les doigts très rapidement. Donc pour éviter ça, on utilise plein de boucles, etc. Il y a aussi des harnais, bon, je vous fais pas le détail. Si ça vous intéresse, allez voir des vidéos, par exemple, de présentation du shibari pour vous donner une meilleure idée de ce que ça recouvre. Mais il y a tout un tas de techniques pour, justement, distribuer le poids, de façon à ce que chaque morceau de corde en soulève le moins possible, et surtout de ne pas mettre la corde au mauvais endroit et de ne pas mettre de la pression sur votre corps aux endroits dangereux. Et même quand on s'y connaît, hein, je l'avais déjà dit, on peut avoir des accidents. Hein. J'ai déjà vu pas mal de témoignages à ce niveau-là, on m'en a rapporté directement des personnes que je connais, qui sont à fond dans les choses du genre shibari, et bien que pratiquante avec des personnes qui sont super expérimentées, hein, des experts et des expertes, eh bien, elles me disaient qu'elles avaient eu des petits accidents, pas très graves, mais suffisants quand même pour être problématiques. Donc là, dans le cas du shibari, quand on fait des suspensions, oui, là, faut le dire, hein, c'est risqué, potentiellement c'est très risqué, faut pas faire n'importe quoi, donc faut pas s'y mettre quand on n'a pas eu au moins des cours, et en faisant pas super super attention, quoi. Enfin, je vais citer un dernier danger, même si je l'avais déjà présenté dans l'épisode précédent. Évidemment, si vous tentez de faire du self-bondage, du bondage où on s'attache seul, là, bien évidemment, j'ai pas besoin d'insister trop, c'est très dangereux. On peut se retrouver incapable de se libérer, bien sûr. Et si on est incapable de se libérer, bon, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Il peut aussi y avoir tous les autres problèmes que j'ai évoqués, des problèmes de circulation, des problèmes sur les nerfs, un problème d'avoir un malaise, de s'étrangler, enfin, il y a plein de risques possibles. Donc ça, c'est super dangereux. Je l'avais déjà dit hein, dans l'épisode précédent que c'était risqué par nature, mais je pense que j'avais pas vraiment besoin de le répéter et même de le dire tout court, parce que c'est tellement évident. Mais comme je veux être complet, je le recite simplement, même si je sais bien que vous vous doutiez que c'était quelque chose de super dangereux par nature, donc qu'il faut faire très attention à ne pas se lancer dedans sans vraiment bien réfléchir et prendre de sérieuses précautions. Cela dit, quand on débute, hein, je l'avais déjà dit, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire, hein, franchement. Donc vous voyez, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas certains problèmes, certains risques, certains dangers. Il peut y en avoir, c'est sûr. Certains sont pas totalement évidents, hein. Certains sont pas si intuitifs que ça. Notamment les problèmes que j'évoquais tout à l'heure pour les coupures de circulation sanguine ou les problèmes de pression sur le nerf. Si vous aviez jamais entendu parler de ça, c'est pas forcément évident. On peut ne pas du tout y penser ou au moins sous-estimer le problème. Maintenant, je me répète, mais tout ça, c'est quand même très très fortement conditionné par le contexte. C'est évident que si pour vous le bondage, comme souvent pour moi par exemple, ça consiste avant tout à vouloir immobiliser quelqu'un avec l'utilisation de quatre menottes, deux pour les bras, deux pour les jambes, franchement, ça limite la plupart des soucis, sauf évidemment hein, tout ce qui est sur la durée, parce qu'au bout d'un moment, on commence à en avoir marre, on peut avoir des problèmes divers. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ce genre de choses de toute façon pendant si longtemps que ça commence réellement à poser problème. Si on commence à utiliser les cordes, là donc il y a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de risques et dans certains cas de dangers, principalement dû à l'intensité, dû au fait aussi qu'on a pu mettre au mauvais endroit, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des zones qu'il faut éviter. La plus évidente évidemment, je l'avais dit, c'était de pas mettre autour du cou, mais en dehors de celle-là, il y a quand même plusieurs endroits où vous pouvez bloquer la circulation et surtout appuyer sur des nerfs et avec des vraies conséquences négatives qui peuvent être graves. Mais même dans ces cas-là, faut aussi voir l'intensité. Si ce que vous faites c'est plus symbolique qu'autre chose, ça devrait pas être très grave. Par contre, si vous serrez fortement et si vous mettez beaucoup de liens, oui, là faut quand même faire un petit peu attention. Ou très attention. Enfin, je venais d'en parler tout à l'heure, de façon absolument évidente, hein, quand on veut tenter des suspensions, ce que je vous déconseille absolument si vous débutez, là, bien entendu, les risques explosent, puisqu'on se retrouve avec une intensité qui est par nature très forte, à part si vraiment on sait exactement ce qu'il faut faire, et même dans ces cas-là, comme je disais tout à l'heure, ça peut mal se passer, ça peut mal tourner. Reste que dans l'ensemble, il faut relativiser vraiment. Il y a potentiellement, oui, certains problèmes, surtout ceux que j'avais cités d'ailleurs à la partie précédente, il y a certains risques, il y a certains dangers, oui, potentiellement, il y en a, mais, je me répète, si vous faites des choses, surtout si vous débutez, que vous faites pas n'importe quoi, vous utilisez un tout petit peu votre bon sens, hein, bien sûr, je pense pas qu'il y ait de raison qu'il y ait vraiment des problèmes. Comme je l'ai dit depuis le départ, hein, le problème, c'est le contexte. Quand on vous présente les dangers, presque toujours le contexte est ignoré. Mais c'est clair que quand on fait des choses légères, notamment quand on utilise des menottes, là c'est vraiment le cas où moi j'estime que c'est le moins dangereux, c'est absolument clair que le risque est très faible, à condition, bien sûr, je l'ai déjà dit, vous m'excusez si je me répète sans arrêt, je sais que je radote, mais il faut utiliser un tout petit peu son bon sens et un tout petit peu son esprit critique. Mais en dehors de ça, il ne devrait pas y avoir vraiment de très gros problèmes. Après, évidemment, plus vous voulez faire des choses qui sont « intenses », entre guillemets « extrêmes », plus vous voulez faire des choses compliquées parce que vous avez progressé, que ça fait pas mal de temps que vous en faites et vous voulez faire des choses qui sont plus avancées, entre guillemets, là, évidemment, le risque, il augmente, c'est normal, c'est comme pour tout. C'est comme pour faire du vélo, hein, comme je disais tout à l'heure, ou bien comme sortir pour aller acheter du pain à la boulangerie, c'est pas la même chose que d'aller 6 mois au pôle Nord. Bah, faut adapter sa réponse et faut adapter ses mesures de prudence et de sécurité, évidemment. J'imagine que vous pensez que ça va de soi et que c'est évident, je le répète juste pour être complet. Ce que je vous laisse, c'était dresser un tableau général des problèmes, mais il est important de les relativiser, ce qui ne veut pas dire qu'il faille pour autant totalement les négliger, hein. Faut pas dire qu'il n'y a pas de problème non plus. Faut juste mettre les choses à leur place, tenir compte du contexte, c'est important, et faut pas se laisser paralyser non plus, c'est-à-dire faut faire attention, faut garder l'esprit ouvert, mais il faut pas vous laisser paralyser en vous disant « oulala, ça me paraît super dangereux, je fais plus rien ». Ce qui est un risque qui est pas négligeable. Hein. Dans BDSM, on a pas mal de problèmes avec ça, pas mal d'hésitations compréhensibles, pas mal de scrupules, et c'est pour ça que j'insiste toujours pour remettre les choses à leur place, pour recontextualiser. C'est vraiment, vraiment important. Même si je suis pas vraiment entré dans énormément de détails, je pense que là je vous ai fait un bon petit tour, un bon petit survol au moins des points majeurs, des points principaux, à la fois de ceux dont malheureusement on parle pas assez souvent, mais aussi de ceux dont on parle, généralement avec raison, très souvent quand on aborde le bondage. Je me répète parce que je viens de lire, au moment où j'étais en train d'enregistrer cet épisode, des pages web de personnes qui font du bondage, qui écrivent sur bondage, et qui sont très alarmistes avec des choses du genre « le bondage, c'est une pratique limite ». En gros, ils sont en train de vous dire que le bondage, en tout cas le bondage avec des cordes, c'est quelque chose de dangereux et faut faire très attention, blablabla. Bon, personnellement, je suis pas du tout d'accord. Je pense que vous l'aurez compris avec ce que je viens d'expliquer à l'instant, là, dans cet épisode. Il y a des choses dont il faut tenir compte. C'est absolument sûr. Mais le problème, c'est que les personnes qui avertissent sur ce genre de choses, en général, elles pensent quand même à ce qu'elles, elles font, et en général, elles font des choses assez intenses. Si vous commencez par juste quelques petites choses sur le matelas, je pense quand même que le risque est assez faible, surtout si vous tenez compte des avertissements que je viens de vous donner là, qui sont après tout, je pense que vous serez d'accord avec moi, pas vraiment des très grosses surprises pour la plupart d'entre eux, et pas non plus des choses qui sont très difficiles à faire, en tout cas tant que vous faites pas des choses vraiment extrêmement intenses. Les choses dont faut se méfier, je l'ai dit mais je le répète, c'est vraiment l'intensité de ce qu'on fait, les positions, plus une position est compliquée, plus c'est problématique potentiellement, et surtout, je réinsiste dessus, c'est la durée. Parce que la durée, c'est peut-être la chose à laquelle on pense pas tout de suite et qui risque de surprendre, alors que des choses du genre l'intensité ou se mettre dans des positions un peu bizarres, tout de suite on réalise, ah oui, là, ça peut être un problème, c'est quelque chose de plus difficile, etc. Si vous voulez vous lancer dans le bondage, le plus simple, ça reste quand même d'utiliser des menottes, comme j'expliquais tout à l'heure. Si vous aimez le côté corde, il suffit d'être un peu raisonnable. Je vous suggère vraiment d'aller lire mes articles sur le sujet. Vous pouvez les trouver sur mon site univers-bdsm.info dans la rubrique Bondage and Discipline. Vous avez des explications sur le choix des cordes, le choix des nœuds et même l'explication de votre premier bondage qui donne pas mal de conseils qui ont été repris déjà dans l'épisode précédent, un peu dans celui-ci et aussi dans l'épisode à venir, le suivant. Avec tout ça, si vous ne visez pas des choses vraiment exagérées, et si vous restez raisonnable, je pense vraiment pas qu'il va y avoir de problème. Faut pas vous laisser décourager quand vous voyez des avertissements qui sont, à mon sens, vraiment la plupart du temps trop alarmistes. Il faut faire attention, bien sûr. Mais ça, c'est vrai pour tout, hein, donc faut pas vous laisser décourager, faut juste y aller progressivement, et plus vous faites des choses qui sont un petit peu intenses, etc., allez un petit peu vous renseigner, prenez du temps de prendre du recul, et faites d'autant plus attention que vous faites des choses d'autant plus intenses. Vous voyez, il n'y a rien de bien nouveau, de bien surprenant dans ce que je viens de dire, hein. C'est vraiment banal, vous m'en excusez. Maintenant, vous allez me dire que la question qui reste, la grande question, celle qui tourmente beaucoup de personnes, c'est tout ça c'est très bien, mais comment est-ce que on peut faire pour faire ses premiers essais et comment est-ce que on va pouvoir convaincre un partenaire ou une partenaire? Alors ça, ce sont des questions qui sont vraiment intéressantes et vraiment vitales et que je vais traiter dans l'épisode suivant. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des remarques, des questions, vous pouvez me joindre en allant sur la page contact de mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'écrire, en restant anonyme si vous le désirez. Cette page contact contient aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, ne vous privez pas. Je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.